Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. On espère que vous avez passé un bon week-end, excellent lundi matin. On espère que c'est pas trop dur aussi de se lever. Et vous pouvez compter sur nous pour vous aider, en tout cas de mieux qu'on pourra, et pour vous accompagner, ça c'est sûr, jusqu'à 6h30.
Le monde veut devenir un gâte, parce que chaque quand il est gâte. Retombe sur ses pattes,
c'est vrai.
Un cat qui retombe sur ses pattes, vous en avez trouvé un, Omblin, tout tigré, avec la queue touffue.
La queue touffue aussi, mais pourquoi pas. Un cat, un chat, Julien, un chat sauvage, le chat forestier, est l'un des deux félins sauvages d'Europe avec le lynx.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'il gagne du terrain en France.
Oui, on le trouve dans le nord-est, mais également dans tout le sud-ouest et désormais dans le Tarn en particulier.
Et la mauvaise nouvelle, c'est que ce chat forestier risque de disparaître. Et
oui, à cause de l'hybride. L'accouplement avec des chats domestiques. On sera à 6h moins le quart avec un membre de l'association Nature en Occitanie qui connaît très bien ce chat sauvage. Nous sommes le lundi 4 avril 2022 dans l'actualité, Julien.
Crime de guerre, c'est l'expression qui revient en boucle après la découverte de centaines de cadavres de civils dans les territoires abandonnés par les Russes autour de Kiev. Des cadavres dont certains ont les mains attachées ou dont les corps ont été piégés. On y revient dès le début du journal dans deux minutes.
Votre invité à 6h10, Julien.
La sénatrice de l'Orne, Nathalie Goulet, qui vient de sortir un livre à la fois passionnant et inquiétant, l'abécédaire du financement du terrorisme aux éditions du Cherche Midi, et comme son titre l'indique, toutes les méthodes des terroristes pour trouver de l'argent y sont compilées.
Trafic de drogue et d'armes, vente de contrefaçon, cartes de paiement prépayées.
Cagnotte en ligne, crédit à la consommation, même nos impôts sont détournés à travers la défiscalisation de dons à de prétendues associations caritatives. On en parle plus en détail à 6h10. Et puis on terminera avec votre partition, Omblin.
Pink Floyd est l'album de tous les records. Vente, longévité dans les classements, affluence dans les concerts. Dark Side of the Moon, l'album concept de Pink Floyd, sorti en 1973, la partition à 6h20.
Anissa Haddadi, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Bon, après ce week-end bien froid et hivernal, en tout cas pour certains, comment la semaine s'apprête à débuter?
Un peu mieux. En tout cas pour aujourd'hui, c'est un peu mieux. Nous avons une petite amélioration sur presque toutes les régions, sauf... Sauf parce que, bah oui, ça ne concerne pas tout le monde, sauf les régions situées au nord de la Loire. Donc, des Pays de la Loire jusqu'aux Ardennes en passant par la région parisienne. On a une matinée ensoleillée, ça c'est certain, mais ça va se couvrir au fil des heures. C'est sur les côtes de la Manche que les nuages s'accrochent le plus. C'est là que la journée est la plus agitée, avec du vent à 70 km/h pour la Normandie et des averses tout au long de la journée. Sur la moitié sud, alors là, vraiment, ça redevient mieux parce que le massif central a été très arrosé par la neige. Les sols étaient très blancs, notamment sur l'Auvergne ou encore le Cantal. Alors sur la moitié sud, ça redevient très ensoleillé. Léger petit bémol sur la Corse où on a un voile nuageux. Les températures, nous avons eu la nuit la plus froide. La nuit de dimanche à maintenant, là, ça a été la plus froide. Donc on a ce matin moins 8 à Guéret, moins 7 à Montluçon, moins 5 pour Angoulême, Colmar, moins 4 à Clermont-Ferrand, moins 3 à Rouen, moins 2 à Bordeaux. Ces gelées sont évidemment très inquiétantes pour la nature. 1 degré pour Paris, 6 à Nice. Et cet après-midi, on aura 8 degrés à Saint-Etienne, 15 à Marseille et 11 à Paris.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous, à l'écoute d'Europe 1. Réchauffez-vous, il est 5h.
Des centaines de personnes ont été tuées. Des civils torturés et abattus, des corps dans les rues.
La sidération du président ukrainien face à l'horreur de Boutcha, ville charnière dont les images font le tour du monde et suscitent partout la même réaction. Crime de guerre, l'Ukraine enquête pour l'éprouver. En Corse, au moins 4000 manifestants réunis en mémoire d'Ivan Colonna à Ajaccio hier. Un rassemblement qui a une nouvelle fois dégénéré, faisant 15 blessés. Nous serons sur place avec notre envoyé spécial. Et puis l'impuissance des agriculteurs inquiets de voir leur récolte totalement décimés face au gel. Face à cette vague de froid, les Français sont aussi appelés à réduire leur consommation d'électricité ce matin. Toutes les explications dans ce journal.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Journal qui vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. En Ukraine, le recul des forces russes dans la région de Kiev est dans cette zone une découverte à Boutcha. Atroce de l'aveu de Paris, Washington, Berlin, Madrid ou encore Londres. 37 000 habitants, des dizaines tués, leurs corps jonchent les rues de cette ville transformée en charnier à ciel ouvert. On y retrouve notre envoyé spécial Europe 1, Nicolas Toneff. Nicolas, ces images sont juste horribles. Est-ce qu'on connaît la nature de ces exactions ?
Eh bien, c'est d'abord l'horreur avec l'image de cet homme gisant dans la rue, exécuté, les mains attachées dans le dos avec un ruban blanc. Ces assassinats sommaires de civils, pour ceux qui sont visibles, avec ses corps allongés sur les trottoirs ou les chaussées, seraient au nombre d'une vingtaine, d'après les témoins qui ont recensé les cadavres, hein, des hommes essentiellement abattus pour certains sur leur vélo, pour d'autres devant leur porte d'entrée. Certains sont âgés. Les autorités ukrainiennes ont montré également des tranchées renfermant des corps. Le maire de Boutcha évoque aussi un charnier contenant près de 300 cadavres de civils.
Et la Russie dément avoir tué ces civils à Boutcha et demande en urgence une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui. Car côté Occident, les accusations de crimes de guerre sont unanimes. Pour le prouver, Nicolas, les autorités ukrainiennes tentent de réunir le maximum d'éléments possibles.
Oui, la semaine dernière, la procureure générale d'Ukraine, Irina Venediktova, expliquait avoir plus de 3000 dossiers en cours. Il y a des équipes dédiées qui sont chargées après des bombardements, après des tirs sur des civils, après des accusations de viol ou d'enlèvement, de documenter avec des photos ou des témoignages d'éventuelles exactions pour trouver des preuves et alimenter les dossiers de possibles crimes de guerre. Il s'agit aussi de dénoncer et de documenter l'utilisation d'armes en principe interdites comme les bombes à sous-munitions. Ce travail a été mis en œuvre très rapidement pour ne rien laisser passer. La procureure entend trouver tous les responsables du plus petit au plus haut gradé pour les amener devant les juges. Il y a donc la volonté de remonter au plus haut des chaînes de commandement russes si elles sont concernées. C'est le cas par exemple pour les bombardements sur l'école militaire de Kharkiv où l'enquête a permis jusqu'à présent de remonter jusqu'à un général russe en attendant plus haut.
Merci pour ces précisions, Nicolas Toneff. Je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine.
En Corse à présent, deux semaines après la mort d'Ivan Colonna, nouvelle manifestation hier et nouveau heure.
Oui, un rassemblement sous haute tension, 4000 participants selon la préfecture. Les organisateurs en revendiquent 14 000 et encore une fois, la manifestation a dérapé avec de violents affrontements. Bilan 15 blessés, dont 3 graves. Le récit de notre envoyé spécial Frédéric Michel.
Le calme est revenu vers 22h après 6 heures d'affrontement dans le centre d'Ajaccio. Tout avait pourtant débuté dans le calme avec des milliers de personnes de toutes générations dans la rue venues de toute l'île comme Michel.
Moi je viens de Bonifacio, malgré le mauvais temps on est quand même venu. J'étais présente à toutes les manifestations et j'essaierai d'être présente à toutes. Parce qu'on est là pour Yvan quand même, pour savoir un peu la vérité quand même.
Mais devant la préfecture, la manifestation a basculé. Des individus cagoulés, armés de cocktails Molotov, de pierres, de boules de pétanque ont violemment harcelé les forces de l'ordre qui ont riposté en faisant usage de bombes de désencerclement et gaz lacrymogènes, parfois sans discernement sur les habitations et les pompiers en intervention. Écoutez cet échange avec des élus indépendantistes.
On vous demande de reculer, tout simplement pour que ça s'arrête, des deux côtés.
On n'ira pas plus loin, madame, jusqu'au moment où ça se calme.
Non, monsieur, il y a une femme qui a la jambe esquintée. Vous avez fait des tirs tendus sur des personnes qui étaient des passants. Maintenant, ça suffit, vous arrêtez parce qu'on ne maîtrise plus rien.
Ça va se passer très mal.
Elle a le mollet arraché. Monsieur Benedetti, il y a des élus, des gens qui sont censés, on vous dit de reculer.
Et hier soir, plusieurs habitants d'Ajaccio me disaient leur dégoût de voir de telles scènes d'émeutes dans leur ville et la société corse semble de plus en plus fracturée.
Frédéric Michel, j'ajoute que des heurts ont également été constatés près de la caserne de CRS de Furiani en fin de journée, la même à qui il était reproché d'avoir chanté la Marseillaise le jour des obsèques d'Ivan Colonna.
5 heures passées de 5 minutes sur Europe 1. On en vient à la présidentielle, c'est la toute dernière ligne droite.
Le premier tour, c'est dans 6 jours maintenant. Dernière occasion pour remobiliser les troupes, comme pour Valérie Pécresse hier, qui s'est présentée comme la seule candidate de droite. Alors qu'elle est maintenant créditée de moins de 10% des intentions de vote, elle appelle les électeurs à renverser la table.
Beaucoup d'agriculteurs n'ont pas dormi de la nuit.
Inquiets de voir leur récolte décimée par le gel, car la vague de froid se poursuit en France jusqu'à demain. Malheureusement, ils seront nombreux à subir de grosses pertes cette année encore, comme nous explique Christiane Lambert, présidente de la FNSEA.
Cette année, en 2022, pour beaucoup de producteurs, ça va être des pertes extrêmement importantes. Quand la température descend à moins 5, tout est grillé dans les arbres fruitiers. Et donc, pour certains, ça sera 70-80% de pertes, voire plus, malgré leur travail de protection. Et ils n'arrivent pas à chauffer suffisamment, ils n'arrivent pas à brasser suffisamment d'air pour essayer de réchauffer la température auprès des arbres eux-mêmes. Et j'ai vu des appels complètement terrifiés ce matin en me disant « j'ai tout essayé, mais je n'ai pas réussi ». Les montants de compensation ne compensent jamais l'intégralité. Et psychologiquement, pour les agriculteurs, se défoncer, travailler toute l'année pour essayer de sauver leur récolte et voir tout partir en gelée, c'est catastrophique. Donc, je vais vous dire d'ores et déjà que ça sera très grave cette année encore.
La présidente de la FNSEA, le principal syndicat agricole, jointe pour Europe 1 par Johan Tritz.
Et Jean Castex a promis des aides hier pour les agriculteurs touchés par le gel. Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, doit mobiliser dès ce début de semaine le dispositif des calamités agricoles.
Le gel qui s'invite aussi dans nos maisons et nos appartements ce matin.
Il entraîne une surconsommation d'électricité. La moitié de nos réacteurs nucléaires sont en maintenance. Conséquence, les Français sont appelés à réduire leur consommation ce matin, surtout entre 7h et 10h. Les explications avec Élise Dangean.
Si vous comptiez faire tourner votre lave-linge ou votre lave-vaisselle, attendez plutôt la mi-journée. C'est l'un des conseils de RTE qui a sorti le drapeau orange ce matin. À 9h, on devrait atteindre un pic de consommation à 73 000 MWh alors que la France n'en produit que 65 000. Vous pouvez aussi réduire votre éclairage ou baisser un peu votre chauffage avant de partir au travail. Et justement, les entreprises, elles aussi, sont appelées à modérer leur consommation d'électricité, explique Jean-Paul Roubin, directeur d'exploitation à RTE.
Dans une entreprise, on peut se poser la question du point de consigne du chauffage, par exemple, et le mettre un peu plus bas. On sait évidemment qu'on fait de plus en plus de réunions à distance, avec des logiciels, des flux vidéo, et ces flux vidéo sont aussi consommateurs d'électricité. Donc peut-être qu'on peut décaler des réunions. Pour les entreprises aussi qui ont des flottes de véhicules électriques, on peut mettre en charge ces véhicules électriques après 10 heures du matin.
Alors pour l'heure, il n'y a pas de risque de coupure, hein, mais des marges de sécurité très réduites. Retour à la normale prévu à partir de 11 heures. Ensuite, les températures vont remonter, ce qui va soulager le réseau électrique.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1.
On termine ce journal par du foot et Kylian Mbappé entretient le suspense.
Oui, hein, le Parisien a confié hier soir ne pas avoir fait son choix sur son avenir au PSG alors que son contrat se termine à la fin de la saison. Une déclaration après le match de clôture de la 30e journée de Ligue 1, PSG-Lorient. Résultat, 5 buts à 1 pour Paris avec un doublé de Mbappé qui se réjouit des bienfaits de la pause internationale sur l'effectif parisien après des semaines plus compliquées.
La sélection, elle a fait du bien. On a beaucoup d'internationaux. Je pense que de changer d'air, d'avoir une autre atmosphère, je pense que ça a fait du bien à pas mal de joueurs. Voilà, parce que je pense que pour pas mal de joueurs, le climat, il était un peu pesant. Après, je dis pas que c'est pas de notre faute, hein, mais voilà, quand un climat il est pesant, c'est qu'une constatation. Et voilà, on est revenu avec beaucoup plus d'énergie, et je pense que ça s'est vu ce soir. C'était moins un match de sénateurs. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de rythme, beaucoup plus d'action, et on a réussi à, je pense, donner du plaisir aux gens parce que nous, on en a pris en tout cas.
Et une première d'ailleurs pour ce PSG Lorient hier soir. Mbappé, Neymar et Messi, qu'on a surnommé la MNM, ont tous marqué.
Oui, on aurait préféré qu'ils le fassent face au Real Madrid. Merci beaucoup Alban Le Prince pour ce journal.
Il est 5h09 sur Europe 1 et on passe aux courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Chantilly et mon pari gagnant sera le 403 Bolshoï. Trois fois deuxième pour autant de tentatives depuis le début de sa carrière. Ce poulain sérieux mériterait bien de voir sa régularité enfin récompensée par une première victoire. Et il est vrai qu'il trouve ici des conditions de course idéales et surtout une position largement à sa portée, ce qui devrait lui permettre de s'imposer et justifier ainsi les bruits très favorables dont il fait l'objet le matin sur les pistes d'entraînement. Notez bien, pour cet après-midi à Chantilly, réunion 1 dans la 4e course, le numéro 3, Bolshoï.
Merci beaucoup Thierry Léger, vous revenez avec vos pronostics du quintet dans une petite demi-heure, à tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bon réveil, bon lundi, c'est le retour du pressing et avec nous Martin Lange, bien sûr, bonjour.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
On commence avec les unes de vos journaux ce lundi qui tous reviennent sur la macabre découverte de centaines de cadavres dans les faubourgs de Kiev, abandonnés par l'armée russe. Le massacre des civils, titre Le Parisien aujourd'hui en France. La barbarie, ajoute Libération. Crime de guerre, Moscou sur le banc des accusés, conclut Les Échos, dont la une est principalement consacré à un tout autre sujet, au crédit immobilier, le virage de l'inflation, écrit le quotidien économique, alors que les taux des crédits à l'habitat ont augmenté en mars pour atteindre 1,15%. Omblin, quel article avez-vous sélectionné ce matin ?
Alors vous connaissez la Gingra, on est tous passés par là, on a 13, 14... 15 ans, la voix qui déraille, des rires souvent bien trop forts, des goûts douteux pour les habits, pour la musique, les copines, les copains, les adultes qui comprennent rien, les portes qui claquent à la maison. De toute façon, ils sont trop nuls, ces parents.
Ta mère t'avait dit, demande ce soir à ton père, il y Il a répondu non. Évidemment, comme pour le scooter, t'as eu beau plaider que tes copines l'ont déjà depuis longtemps. Le téléphone dans ta chambre, c'est non.
L'adolescence, voilà, ouais. Ses joies, ses peines, l'adolescence et son acné. Ouais. Avis à tous les ados et tous les parents, vous trouverez des petits rappels nécessaires dans le dossier santé du Figaro ce matin. Et une donnée qui devrait rassurer tout le monde, 80% des ados dans le monde subissent l'acné. Oui, mon petit chéri, les chaussettes, si tu les laisses traîner par terre au milieu de ta chambre, elles vont pas aller toutes seules dans le sac de linge sale. Et oui, l'acné, c'est normal. Cependant, c'est vrai, il existe des degrés différents.
Quel est le rapport entre les chaussettes et un petit message personnel là,
bah, l'adolescence et les chaussettes qui collent au parquet, okay, non okay. Vous avez pas connu ça, maman? On va appeler maman Pierce pour savoir si elle a connu les chaussettes. L'acné, c'est le résultat d'une sécrétion excessive de sébum. Le sébum, c'est ce film protecteur de la peau. Mais à cause du bouleversement hormonal qui fait passer nos fées et nos petits princes en fans de K-pop et en ours des cavernes, eh bien ce sébum est produit en trop grande quantité, ce qui provoque rougeur, points noirs, papules, kystes et autres pustules. Sympathiques. La règle générale pour lutter contre l'acné, c'est d'adopter les bons gestes et les bons réflexes, c'est-à-dire tous les soirs lavage doux du visage avec un savon dermatologique et hydratation avec une crème fluide. Si l'acné est plus sévère dans 15% des cas et dans le monde, il existe des traitements un peu plus costauds, des crèmes à base de peroxyde de benzoyle. C'est un antibactérien et ça s'applique en douceur encore. Si ça ne suffit pas, il existe un traitement radical. On a connu jadis sous le nom de la marque, hein, Roaccutane. C'est de l'isotrétinoïne, mais gare aux effets secondaires.
C'est radical, hein.
Ouais, alors ça, il y a pas mieux, il y a pas mieux. L'acné s'en va.
Ouais, mais
ça dessèche la peau.
Voilà, sécheresse de la peau énorme pour les jeunes filles. Traitement, le traitement est accompagné d'un contraceptif car il provoque de graves malformations du fœtus. Un traitement prescrit par un médecin, bien sûr, et il doit être renouvelé tous les mois, donc on doit passer devant un médecin tous les mois, le dermato ou le médecin généraliste. Il peut avoir aussi ce traitement des effets sur l'état psychologique de l'ado, comme si ça suffisait pas. En général, en tout cas, patience, discipline, persévérance suffisent, avec douceur, toujours contre l'acné, c'est à lire dans le Figaro.
Merci Ombline. Martin, à vous.
Vous êtes vacciné contre le Covid, Ombline et
oui.
Julien.
Oui.
Vous avez reçu combien de doses? Deux, trois?
Les trois réglementaires.
Trois. Petit joueur que vous êtes. Ce matin, rencontre avec un Allemand qui vous surpasse largement en la matière, il a reçu au moins 87 doses.
87
de vaccin. Ouais, et encore, hein, le chiffre pourrait être plus important selon Slate, puisqu'il ne s'agit là que des injections connues par les autorités. Hein. Une enquête a évidemment été ouverte. Alors notre homme de 61 ans, originaire de Magdebourg, dans l'est de l'Allemagne...
Il doit bien capter la 5G, lui.
Exactement. Ouais. On va en parler à nos amis anti-vax. Pouvait recevoir jusqu'à 3 doses de vaccin par jour, hein, tout ça en changeant simplement de centre de vaccination. Alors à chaque rendez-vous, notre addict de la piqûre se présentait avec une carte vaccinale vierge. Oui, en Allemagne, ça fonctionne avec une carte, mais surtout, il y venait sans carte vitale, ce qui le rendait difficilement traçable. Ensuite, une fois le schéma vaccinal complet, il effaçait tout simplement son nom de la carte vaccinale et la revendait à des antivax, hein, beaucoup moins friands de la seringue. Et oui, notre homme ne se piquait pas par passion, il y avait évidemment un business derrière tout ça. Malheureusement, le journal allemand qui a révélé l'affaire, hein, le Freie Presse, ne donne pas les détails de ce trafic. On ne sait pas combien notre homme revendait ses cartes vaccinales.
Mais est-ce qu'on sait, en revanche, comment il a fini par se faire avoir?
Oui, ça on sait, et c'est tout bête, hein, il a fini par se faire reconnaître par un employé d'un centre de vaccination, c'était à Dresde. Notre homme avait commis l'erreur de se rendre plusieurs fois dans le même vaccinodrome. Alerté, hein, la Croix-Rouge a mis en garde tous les centres de vaccination, et quelques jours plus tard, hein, le sexagénaire était interpellé. Évidemment, il était sur le point de se faire re-vacciner, probablement le coup de trop. Alors après enquête, les autorités ont donc recensé 87 injections uniquement en Saxe, le land où vit notre homme, mais elle le soupçonne d'avoir exporté sa combine dans les Landes limitrophes, ce qui pourrait encore augmenter son record. Un Allemand s'est fait vacciner 87 fois contre le Covid, ça paraît fou et c'est à lire sur Slate.
Bon, il est en bonne santé.
Oui, il est en bonne santé, c'est vrai que c'est un argument aussi contre nos amis anti-vax.
87
injections, voilà. Et il est toujours vivant.
Bon, s'il arrive à avoir chopé le Covid,
ouais,
il doit avoir un taux d'immunité... Sky the rocket, comme on dit en anglais. Merci beaucoup, Martin. J'ai choisi pour ma part un article du Parisien aujourd'hui en France qui nous emmène dans les Bouches-du-Rhône, département où les centres des impôts voient depuis quelques jours défiler au guichet des contribuables furieux. La raison de leur courroux, un courrier leur annonçant une hausse significative de leur prochaine taxe foncière. En tout, 8500 foyers sont concernés, 8500 maisons où les finances publiques pensent avoir repéré la présence de piscines non déclarées. Car une piscine, les amis, ça se déclare aux impôts, qu'elle soit d'ailleurs enterrée ou non. En fait, le seul critère qui compte aux yeux de Bercy, c'est si elle peut être déplacée sans être démolie. Si c'est le cas, alors vous n'avez pas de supplément à payer. À l'inverse, elle constitue, je cite, un élément d'agrément bâti formant une dépendance qui doit être prise en compte pour l'établissement de la taxe d'habitation et de la taxe foncière. En clair, il faut passer à la caisse. Depuis près d'un an, les piscines non déclarées dans 9 départements sont la cible non pas d'agents du fisc qui jettent un œil au-dessus de votre clôture, mais d'un logiciel ultra perfectionné qui analyse les vues aériennes du cadastre, une intelligence artificielle mise en place par Google et développée par l'entreprise Capgemini pour le compte de Bercy. Et si vous en avez déjà entendu parler, c'est normal, puisque cela fait près de 3 ans que le sujet revient régulièrement sur la table. À l'origine, c'est l'entreprise Accenture qui avait décroché l'appel d'offres, un contrat tout de même à 20 millions d'euros, pour une expérimentation menée dans 3 départements. Elle avait été arrêtée au bout de quelques mois, faute de résultats probants. Beaucoup d'espoir avait donc été placé dans Google et Capgemini, qui ont repris le flambeau en apportant leur propre logiciel, capable non seulement d'identifier des piscines, mais aussi des cabanons et à terme des extensions de maisons. Mais force est de constater que le programme informatique du géant américain ne marche pas mieux que le précédent. Les résultats sont truffés d'erreurs, ce que confirment les agents de terrain, les inspecteurs des impôts et les géomètres censés scruter leur secteur pour identifier du bâti non déclaré. Quand le logiciel leur indique qu'à telle adresse il y a une piscine en dur, ils n'y trouvent souvent qu'une piscine gonflable. Parfois c'est une simple bâche bleue qui suffit à tromper l'intelligence artificielle qui multiplie les signalements. 11 500 rien que pour les Bouches-du-Rhône. Une masse de données impossible à contrôler uniquement sur le terrain. Résultat, pour aller plus vite, les géomètres du fisc tentent de tout vérifier en reprenant les photos aériennes ou sur Google Street View, mais immanquablement, il y aura des oublis et donc des piscines taxées qui ne devraient pas l'être. Conclusion des inspecteurs des impôts, le taux d'erreur du logiciel est de 30%,
c'est beaucoup, ce
qui
énorme.
Fait dire au syndicat que le contrat avec Google et Capgemini devrait être suspendu d'ici la fin de l'année. D'autant que d'autres missions, l'autre mission du programme, qui est de repérer les dépendances ou les cabanons, est encore moins au point, 80% d'erreurs. L'intelligence artificielle voit des bâtiments à taxer à la place de routes, de trottoirs ou de parkings. C'est prometteur, mais pour traquer les piscines non déclarées, l'IA pas si efficace, c'est-à-dire donc dans le Parisien aujourd'hui en France.
Rien que mieux que les agents du fisc qui se déplacent finalement.
Voilà. Rien de mieux que les cerveaux humains.
Investissement du personnel.
Voilà, merci beaucoup Julien. Merci Martin, on se retrouve dans 40 minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure Martin.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h19 sur Europe 1, les principaux titres, Alban Le Prince.
Les images sont choquantes et suscitent l'indignation de l'Occident et des Nations Unies. Les rues de Boutcha dans la région de Kiev, jonchées de cadavres, Washington, Paris, Berlin, Madrid et Londres, dénoncent des crimes de guerre. La Russie dément avoir tué des civils et demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui. Les récoltes menacées par le gel, cette nuit, Jean Castex promet d'être aux côtés des agriculteurs impactés. Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, doit mobiliser dès ce début de semaine le dispositif des calamités agricoles. Conséquence du froid aussi, les Français sont appelés à réduire leur consommation d'électricité ce matin entre 7h et 10h. RTE précise tout de même qu'il n'y a pas de risque de coupure.
Vous sortez des sentiers battus, vous innovez. Alors c'est la chronique qui vous donne la parole. Les initiatives en France nous emmènent ce matin, Julien, en Vendée.
Bonjour Vincent Roux.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le cofondateur de O-Code, une jeune entreprise qui a créé un système d'identification des objets, un système infalsifiable basé sur la blockchain. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, absolument. En fait, ce qu'on a cherché à faire, c'est trouver une solution pour à la fois permettre aux gens de se faire restituer leur objet en cas de perte ou de vol s'il était retrouvé et éviter les arnaques aussi lors d'un achat de seconde main sur un site d'occasion ou encore valoriser son bien à la revente. Donc en fait, c'est un identifiant unique à même l'objet, soit avec une étiquette collée sous résine ou avec un gravage. Et ça fait de cet objet une pièce unique et il est associé à une comme une carte grise en fait, à un certificat de propriété numérique sans que vous ayez besoin d'afficher votre nom, votre numéro de téléphone ou votre mail sur l'objet. Voilà.
Un NFT, c'est ça, comme on dit, un non-fungible token ?
Absolument, oui. C'est vrai que c'est la technologie sur laquelle on s'appuie. Nous, on n'en fait pas une fin en soi, c'est un moyen pour nous. C'est-à-dire que c'est la technologie qui permet de rendre ça infalsifiable et impiratable parce que ce n'est pas centralisé. Mais ce n'est pas l'apologie de cette technologie particulièrement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'usage et de ramener ça sur le plancher des vaches, quoi.
Oui, vous êtes très loin de toute la folie qu'il y a autour des NFT, notamment dans le milieu de l'art ces derniers temps. Il ressemble à quoi ce marquage concrètement ? À une sorte de QR code ?
C'est ça, sauf que c'est un petit nuage de points, donc un peu comme un nid d'abeille. Donc c'est déjà un peu plus facile à imprimer sur un objet, et puis c'est un peu plus esthétique aussi qu'un QR code. Et puis on veut vraiment en faire un code qui soit spécifiquement dédié à la protection des objets et des personnes, là où le QR code, vous allez le retrouver à la fois sur votre boîte de céréales ou sur une affiche publicitaire. Bon, bah, quand vous serez en présence de ce code-là, vous savez que vous êtes dans un univers protégé et sécurisé, ce qui est le plus important pour nous.
Alors justement, si on perd ou on se fait voler son vélo, par exemple, que se passe-t-il ?
Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que vous êtes en présence de ce code-là, vous allez aller sur le site scan-ocode.com et vous allez scanner ce code et instantanément, vous serez mis en relation avec le propriétaire du vélo. Donc si la personne qui est en train de vous le vendre ce vélo, c'est bien cette personne-là, alors elle vous verrait à la fenêtre de messagerie instantanée un sourire sur son téléphone. Si ce n'est pas cette personne-là, alors vous serez en contact avec la personne pour pouvoir lui restituer son vélo. Ou ça peut aller aussi sur d'autres usages. Hein, où, par exemple, il arrive que quelqu'un mette donc son cadenas autour de votre vélo en même temps que le sien. Bah, pareil, vous allez pouvoir scanner le code et être mis instantanément en contact avec le propriétaire pour lui demander de vous détacher.
C'est assez pratique, notamment pour vérifier si un objet qu'on s'apprête à acquérir n'a pas été volé, c'est ça ?
Absolument, c'est ça. Ça peut aussi être pour des bagages, par exemple. On est en train de travailler là avec des compagnies aériennes sur notre capacité à mettre ça sur les bagages pour que dans un aérogare, au lieu d'aller chercher les démineurs, bien, on puisse juste scanner le code et se mettre en contact direct avec le propriétaire. Ou alors, vous allez pouvoir aussi, lors d'un achat, vérifier l'historique de cet objet, s'il a été renseigné par des professionnels derrière ce code.
C'est le marquage des vélos qui est obligatoire depuis un peu plus d'un an, qui a véritablement lancé votre solution, qui l'a fait découvrir au plus grand public ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la difficulté d'un code comme celui-ci, évidemment, c'est d'essayer d'inonder le plus possible pour que ça devienne une référence, un usage, un standard. Et c'est vrai que le vélo imposant un marquage, on s'est bien sûr mis nous sur ce créneau-là pour pouvoir développer notre code à plus grande échelle.
Combien de vélos sont aujourd'hui marqués grâce au code ? Vous le savez ?
Oui, alors en fait, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect où c'est le fichier national des vélos. Donc, c'est notre technologie qui est derrière ça pour le ministère de l'Intérieur. Et ensuite, il y a le code qu'il y a à même le vélo qui est fait par des opérateurs de marquage. Donc là, vous avez 4-5 marques sur le marché. Et donc, nous, on en opère une. Donc, en gros, si vous voulez, pour répondre à la question, en fait, on va donner des NFT, enfin, ou des identifiants uniques pour 5 millions de vélos. Par contre, le marquage à proprement parler, nous, on l'a pour 1 200 000 vélos aujourd'hui en France.
Alors là, on parle de vélos. Vous avez mentionné les valises. Sur quel autre type d'objet on peut apposer ce marquage ?
Alors aujourd'hui, on travaille avec des marques pour les téléphones, les ordinateurs, le petit matériel, petit outillage. On travaille également avec une marque automobile pour garantir l'historique d'un véhicule. Voilà, c'est quelques exemples supplémentaires de ce qu'on peut faire avec cet objet demain.
En fait, c'est quasi infini, c'est ça. C'est qu'on peut graver ou marquer à peu près tout.
Voilà, c'est notre chance et notre problème. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache se concentrer sur quelques objets au départ, et puis ensuite, au fur et à mesure, faire grandir ça. Et puis, ça n'a pas de frontières, donc c'est un produit qui peut se retrouver dans tous les pays sans pour autant qu'il y ait une barrière culturelle ou quoi que ce soit.
C'est pour ça que vous souhaitez faire de ce marquage unique une sorte de standard mondial, une référence ?
Absolument. Et aujourd'hui, si on veut le faire, c'est qu'on a nous fait le constat qu'il y a 95% de gens honnêtes qui ont tous envie de rendre service. Et aujourd'hui, pour diverses raisons, on ne met pas notre nom sur les objets, on est toujours un peu méfiant des achats qu'on peut faire. Ben nous, on veut rétablir cette confiance, en fait, tout simplement, entre les personnes, parce qu'il n'y a pas de raison que les 5% de personnes malhonnêtes viennent déstabiliser les échanges de pair à pair.
Merci beaucoup, Vincent Roux, de nous avoir présenté O-Code et son système de marquage unique et inviolable. On vous souhaite beaucoup de succès pour les années qui viennent et on vous dit à bientôt sur Europe 1.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28, très bon réveil à tous sur Europe 1, à suivre le journal de Christophe Lamarre où l'on retournera en Ukraine. Et puis dans un quart d'heure, un chat va monopoliser toute notre attention.
Et pas n'importe lequel, Julien, le chat forestier, l'un des deux félins sauvages d'Europe avec le lynx. Son territoire augmente ces dernières années, il est néanmoins menacé d'extinction car il peut se reproduire avec nos chats domestiques. La souche pure risque donc de disparaître. À quoi il ressemble ce chat forestier? Pourquoi gagne-t-il du terrain aujourd'hui? Et que peut-on faire pour le sauver? Nous serons dans 15 minutes avec un membre de l'association Nature en Occitanie qui le connaît très bien.
Et puis juste après, le rendez-vous série du lundi.
Oui, avec Marie Jiquel qui s'installe sur le divan dans Thérapie, série à succès à l'origine israélienne, adaptée par Olivier Nakache et Eric Toledano. La deuxième saison arrive sur Arte.
Mais avant la météo, Anissa Dadi de retour avec nous, ça s'améliore un peu aujourd'hui.
Oui, grâce à l'anticyclone des Açores, il est de retour, on l'attendait, il va nous redonner de la luminosité, en tout cas à toute la moitié sud du pays. C'est vrai qu'on a une journée ensoleillée sur les deux tiers sud. En revanche, au nord de la Loire, entre la Bretagne et les Ardennes, en passant par la région parisienne, bah là on a un ciel qui est quand même très voilé ce matin et qui va s'assombrir au fil des heures. Mais c'est vraiment le long des côtes de la Manche, hein, entre le Finistère et le nord, là sur toutes les côtes normandes, on a des nuages très gris, très épais. On a du vent d'ouest jusqu'à 70 km/h et des petites averses qui vont rythmer votre journée. Alors côté température, on a déjà battu des records dans la nuit de samedi à dimanche. Je vous les donnerai à 6h30 d'ailleurs. Et on risque d'en battre encore cette nuit.
Vous nous disiez tout à l'heure, moins 8 à Guéret.
Moins 8 à Guéret, on a un petit moins 12 à Mout. Vous savez, la petite Sibérie, dans le Doubs. Donc moins 12 ce matin à Mout, moins 7 à Nevers, moins 6 à Nancy. On a moins 4 à Besançon. Je pense qu'on va battre des records cette nuit. Moins 3 à Montluçon, 1 degré pour Paris et Lille et 6 à Nice. Alors cet après-midi, il fait bien plus doux. On a 8 degrés à Belfort, 9 à Clermont-Ferrand, 11 à Brest et Rennes, 12 à Lyon et 15 la maximale pour Marseille.
Les dégâts seront faits malheureusement.
Sur la nature, oui.
Oui. Merci beaucoup Anissa Dadi et très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, qui ne sont pas des soldats, c'est les gens civils. Tués pas par les nécessités, c'est par méchanceté. Il y a des choses qu'on ne peut pas décrire par les paroles pour l'instant.
L'émotion de ce médecin ukrainien face à l'indicible et l'indignation de la communauté internationale après le massacre de Boutcha attribué à l'armée russe. Au moins 410 civils auraient été tués selon les Ukrainiens. La dernière ligne droite avant le premier tour de la présidentielle dans 6 jours. Nicolas Sarkozy absent du meeting de Valérie Pécresse mais sifflé par une partie des militants LR. Et puis doucement sur le chauffage, RTE, le gestionnaire de l'électricité, demande aux Français de réduire leur consommation électrique entre 7h et 10h ce matin. Conséquence de la vague de froid et des opérations de maintenance sur près de la moitié des centrales nucléaires.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. L'armée russe s'est retirée des environs de Kiev, laissant derrière elle un spectacle de désolation. À Irpin et Boutcha, l'ampleur des destructions témoigne de la violence des combats, mais il y a plus grave. Les Russes ont peut-être commis des atrocités. Plus de 400 civils auraient été massacrés et parfois jetés dans des fosses communes. Pierre est un médecin franco-ukrainien qui sillonne les alentours de Kiev. Il a du mal à trouver les mots pour décrire ce qu'il a vu.
Le territoire qui est fermé pour 4 jours, pour déminer, pour ramasser des cadavres. Quand il y a un cadavre, il ne prend pas les corps comme ça. Il attache par un crochet, un fil, et on tire pour les bouger, pour se rassurer qu'il n'est pas une mine qui est cachée en dessous. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, qui ne sont pas des soldats, c'est les gens civils. Tués pas par les nécessités, c'est par méchanceté. Il y a des choses qu'on ne peut pas décrire par les paroles pour l'instant. Je ne peux pas parler sans pleurer de ça. Vous comprenez ? Je suis soldat quand même, je suis ancien légionnaire. J'ai vu beaucoup de choses en fait dans ma vie. Mais quand on voit ça dans le 21e siècle... Pas de sentiment, là.
Pierre, médecin franco-ukrainien présent à Irpin et Boutcha, témoignage recueilli par Marion Gauthier.
Une ville symbolise cette folie destructrice, c'est Boutcha dans la banlieue de Kiev.
Et la Russie nie toute implication. Le représentant de Moscou à l'ONU réclame une réunion du Conseil de sécurité. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies appelle la création d'une enquête indépendante pour faire la lumière sur ces exactions. Pour l'organisation humanitaire Human Rights Watch, la responsabilité des Russes ne fait aucun doute. Rachel Dambert est l'une de ses dirigeantes. Elle craint que ce ne soit que le début.
Nous avons documenté notamment une exécution sommaire dans la ville de Boutcha. Nous avons interrogé une femme qui a vu des soldats russes rassembler des gens de son quartier. Ils ont mis au milieu d'eux 5 jeunes hommes, les ont fait s'agenouiller, mettre leur t-shirt sur leur tête, puis ils ont tué l'un d'entre eux d'une balle dans la nuque. Nous avons aussi parlé à une femme qui a détaillé ce qui lui est arrivé pas très loin de Kharkiv. Elle s'était mise à l'abri dans le sous-sol d'une école. Un soldat russe est entré dans l'école armé, l'a emmenée dans une salle de classe à l'étage, lui a mis le canon sur la tempe et l'a violée plusieurs fois. Ce sont des actes d'une cruauté terrible et délibérée. Les coupables doivent rendre des comptes. Il doit y avoir une grande enquête internationale sur ce qui s'est passé à Boutcha. Nous craignons qu'il y ait d'autres cas comme cela.
Rachel Dember, directrice adjointe de Human Rights Watch pour l'Europe et l'Asie centrale. J'ajoute que la secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charge des affaires humanitaires est à Moscou depuis hier soir pour parler justement de l'Ukraine.
Et ce conflit sur le sol européen a servi de toile de fond aux élections en Hongrie comme en Serbie.
Le Premier ministre hongrois Viktor Orban remporte les législatives pour la 4e fois consécutive. En Serbie, les résultats officiels seront connus ce soir, mais le président sortant Aleksandar Vučić revendique la victoire pour son parti.
On revient en France à 5h34 sur Europe 1 avec la campagne pour l'élection présidentielle. Ultime ligne droite avant le premier tour dimanche. Et Valérie Pécresse appelle les Français à se révolter.
La candidate des Républicains espère toujours faire mentir les sondages qui la donnent battue dès le premier tour. Un silence et une absence remarquée hier, porte de Versailles, celle de Nicolas Sarkozy, sifflée à l'évocation de son nom. Mais d'abord un constat, Alexandre Chauveau, Valérie Pécresse a fait oublier sa prestation ratée du Zénith.
Oui, et Valérie Pécresse se montre beaucoup plus à l'aise et naturelle qu'au Zénith, malgré toujours quelques envolées légèrement surjouées. Mais la candidate a indéniablement progressé. Elle s'exprime cette fois non plus seule sur scène, mais au milieu des jeunes républicains et domine davantage la salle. Valérie Pécresse qui cultive l'image d'une femme qui préfère agir plutôt que séduire.
Je ne suis pas la candidate du verbe. Je veux être la candidate de l'action réelle, celle qui va changer la vie des Français.
Un discours de trois quarts d'heure devant tous les ténors de la droite, tous sauf Nicolas Sarkozy qui avait décliné l'invitation. L'ancien président et fondateur des Républicains a même été hué par la salle à l'évocation de son nom lors des prises de parole qui ont précédé le discours.
Nicolas Sarkozy. Je ne voulais absolument pas cette réaction, bien au contraire.
Des sifflets qui interpellent forcément au regard de l'extrême popularité qui fut celle de Nicolas Sarkozy chez les militants LR, mais qui traduisent leur amertume face au silence de l'ancien président et même à ses critiques acerbes envers Valérie Pécresse dans cette campagne.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
En Corse, de nouvelles manifestations à Ajaccio et à nouveau des affrontements deux semaines après la mort d'Ivan Colonna.
Plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées pour une manifestation en hommage à l'indépendantiste corse. Les violences ont débuté lorsque le cortège a stoppé devant la préfecture d'Ajaccio. Une centaine de jeunes ont affronté les forces de l'ordre à coups de cocktails Molotov et de bombes agricoles. Bilan, 15 blessés, dont 3 graves.
On en vient à cette recommandation de RTE. Le gendarme de l'électricité demande aux Français de réduire leur consommation électrique entre 7h et 10h ce matin.
La vague de froid pourrait inciter certains d'entre nous à monter le chauffage, sauf que le réseau ne pourra pas absorber cette surcharge. 27 réacteurs sur 56 sont à l'arrêt pour maintenance. Et si RTE exclut les risques de coupure, l'opérateur veut éviter d'avoir à importer de l'électricité.
2 ans après le début de l'épidémie de Covid, le secteur du tourisme peine à relever la tête.
Et ce ne sont pas les touristes à proprement parler qui manquent. Les dernières enquêtes, notamment auprès des voyagistes, montrent une envie de voyager. Encore faut-il pouvoir accueillir les clients. Et le secteur peine là aussi à recruter, Maud Descamps.
Oui, alors je vais vous donner un chiffre et vous allez tout de suite comprendre l'ampleur du phénomène. Le secteur du tourisme a perdu 30%, un tiers de ses effectifs en 2 ans. Des salariés qui ont soit changé de secteur, soit monté leur propre projet professionnel, comme l'observe Selat Erdogan, directeur commercial chez Mondial Tourisme.
C'est vrai que le tourisme fait moins rêver. On ne vend plus en fait. On fait, on défait, on refait. Il y a eu des reports qui ont fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas le vrai métier de l'agent de voyage. Le vrai métier de l'agent de voyage, c'est de renseigner son client, de le faire rêver. Pendant 2 ans, on n'a pas pu faire cela. Dans notre entreprise, on a vu des gens qui sont partis travailler dans l'immobilier.
Alors pour tenter de faire revenir les candidats, la profession a engagé une réflexion. Il faut redonner envie, souligne Valérie Bonnette, secrétaire générale des entreprises du voyage.
Il y a une réflexion sur une sophistication de la rémunération, l'intéressement, la participation, c'est-à-dire rendre les choses attractives, la façon dont on travaille, le télétravail, tout remettre à plat, ça va être l'objet des négociations qu'on va entamer dans l'année qui vient.
Des efforts que certains grands groupes ont déjà commencé à mettre en place, mais qui restent plus difficiles pour les petites entreprises du secteur.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
Le football, Paris surclasse Lorient grâce à un Mbappé magistral, l'attaquant parisien qui maintient d'ailleurs le suspense sur son avenir.
Une victoire 5-1 du PSG avec un doublé de Kylian Mbappé, auteur par par ailleurs de 3 passes décisives. L'attaquant a rayonné et ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Il l'a dit à l'issue de la rencontre à nos confrères de Prime Video.
Je n'ai pas décidé. Et voilà, je suis tranquille, on prend le temps de prendre la meilleure décision parce que je ne veux pas me tromper, donc j'ai pas pris de décision. C'est pas mal de paramètres qu'il faut prendre en compte. Comme j'ai dit, c'est une décision pas facile et j'ai envie de prendre la meilleure possible. Et donc voilà, j'essaie avec mes proches de prendre la meilleure décision pour mon futur.
Kylian Mbappé, le PSG toujours en tête du classement devant Marseille, vainqueur de Saint-Etienne 4-2, Rennes est 3e.
Merci beaucoup Christophe Lamar pour toutes ces informations. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur les 3000 mètres de la piste en gazon de l'hippodrome de Chantilly que va se courir ce Quintet. Et parmi les 16 partants, difficile de ne pas accorder un très large crédit au numéro 3, Goya Senora, qui reste sur une excellente 2e place dans un Quintet similaire pour sa première tentative sur une aussi longue distance. Et il n'a qu'à répéter cette performance pour se retrouver ici automatiquement à l'arrivée. On lui opposera les numéros 11, Mac la Tambouille, prometteur 6e à ce niveau, lors de sa rentrée après 3 mois d'absence, le 24 mars sur l'hippodrome de Saint-Cloud. 10, la Templière, promise très rapidement cette année à jouer un tout premier rôle dans ce style d'épreuve. Et 5, Pordeauville, pour lequel son entraîneur marseillais Franck Foresi n'hésite pas une nouvelle fois à effectuer un long déplacement jusqu'à Chantilly. Enfin, les numéros 8, Palpitate, 6 Dojo, 2 Beljan Prince et 14 Poète Quest compléteront ma sélection. Mon pronostic, 3, 11, 10, 5, 8, 6, 2 et 14.
Des pronostics que vous retrouvez sur europe1.fr. Palpitator, c'est le numéro 8. Hein.
Ouais, et Mac la Tambouille, petit billet de sûr, rien que pour le petit nom. Hein.
Merci beaucoup Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu
de... C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
C'est un 4 avril, comme aujourd'hui, mais le 4 avril 1968 que Martin Luther King était assassiné. Sa mort suscite immédiatement l'émotion dans le monde entier. Bonjour Lord Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous.
Lord Martin Luther King est tué devant sa chambre d'hôtel à Memphis, aux États-Unis.
Oui, il est tué d'une balle de fusil, il n'avait pas encore 40 ans. Martin Luther King était venu à Memphis défendre la grève déclenchée par les éboueurs de la ville, à majorité noire. Le coup de feu semble venir d'un immeuble en face, mais lorsque les policiers arrivent, le tueur a déjà pris la fuite à bord d'une Mustang blanche. Quelques heures plus tard, des émeutes éclatent dans les quartiers noirs des grandes villes, comme Harlem, récit de l'envoyé spécial d'Europe 1.
Derrière moi, sur le trottoir d'où je téléphone, un supermarché entièrement brûlé, calciné, pillé. La police à présent silencieuse patrouille les rues.
Un couvre-feu est instauré à New York. Le président américain Johnson reste cloîtré. À Washington, la capitale des États-Unis, 60% de la population est noire, dit alors le journaliste d'Europe 1 Jacques Tellier, et la ville est en état d'alerte.
En ce moment même, les leaders noirs modérés, les disciples de la non-violence de Martin Luther King, sont réunis dans le bureau du président Johnson à la Maison-Blanche. Mais les extrémistes, ceux pour qui Martin Luther King était un oncle Tom, un nègre emblanchi, ne sont pas là.
Et les incendies et pillages continuent au même moment dans plusieurs villes des États-Unis. Le pays n'est pas seulement divisé entre blancs et noirs, mais aussi entre noirs eux-mêmes.
Lors, les obsèques de Martin Luther King ont lieu 4 jours plus tard, le 8 avril 1968, toujours à Memphis, dans le Tennessee.
Oui, 1300 invités assistent aux funérailles ainsi qu'une foule considérable estimée à 25 000 personnes. La cérémonie a lieu dans l'église où le pasteur qui était Martin Luther King officiait et la foule chante.
Vous entendez en ce moment la foule, une foule extrêmement dense, chanter un Negro spiritual.
Récit sur place du journaliste d'Europe 1 Bernard Ullmann. Pendant les obsèques, la femme de Martin Luther King prend la parole.
Madame King, en s'adressant à eux, leur a dit « Nous devons poursuivre l'œuvre de mon mari et lutter pour les pauvres, non seulement des États-Unis, mais du monde entier. Mais, s'est-elle interrogée, nous devons d'abord nous demander si nous avons la volonté de le faire. »
Quant à l'homme qui a tiré sur Martin Luther King, c'est un ségrégationniste blanc qui a des antécédents judiciaires. Il est finalement arrêté 2 mois plus tard à l'aéroport de Londres, alors qu'il essayait de quitter le Royaume-Uni.
Merci beaucoup, Lord Autriche, et à demain pour un nouveau jour où... Dans un instant sur Europe 1, le chat forestier qui gagne du terrain.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Il est 5h43 et on part à la découverte d'une espèce de chat sauvage qui vit dans nos forêts françaises et européennes, le chat forestier. Et même s'il est en train de gagner du terrain, sa survie est menacée. On en parle Omblin avec un membre de l'association Nature en Occitanie.
Bonjour Maxime Belot.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes chargé d'études mammifères chez Nature en Occitanie. Alors d'abord, à quoi ressemble-t-il ce chat forestier, voilà, pour qu'on puisse faire connaissance avec lui?
Donc, le chat forestier est reconnaissable grâce à différents critères phénotypiques, donc visibles sur son pelage. Il va avoir un pelage plutôt uniforme, brun fauve, avec une queue assez épaisse, composée d'un manchon noir à son extrémité et de 1 à 3 anneaux noirs complets. Ensuite, il va avoir une ligne dorsale bien visible qui part des épaules et qui s'arrête juste avant le départ de la queue. Et il va avoir 4 traits noirs présents sur sa nuque, ainsi que l'iris des yeux verts et une truffe rose.
On va revenir dans un instant sur son expansion qui s'accélère. Mais d'abord, dites-nous, Maxime Belot, comment vit-il ce chat forestier? De quoi se nourrit-il? Il vit la nuit essentiellement? Comment ça se passe?
Oui, alors c'est un félin assez discret qui est difficilement observable. Donc il va plutôt être actif la nuit, on peut l'observer des fois pendant la période des fauches, en train de chasser en prairie. Donc il va se nourrir essentiellement de micro-mammifères, donc à 90% de souris, de campagnols, de mulots. Et il peut aussi s'attaquer à quelques oiseaux, quelques amphibiens, et se nourrir occasionnellement d'orthoptères, donc d'insectes ou de baies également.
Alors c'est la bonne nouvelle, hein. C'est pourquoi aussi nous discutons aujourd'hui. Il semble que le chat forestier gagne du terrain, et ce depuis quelques années. Alors son territoire en France s'étend aujourd'hui sur quelle distance ?
Il y a eu pas mal de travail qui a été fait sur l'espèce par l'Office français de la biodiversité, notamment ces dernières années. Et ils ont établi deux gros noyaux de population français. Donc un premier noyau sur le quart nord-est de la France, donc qui occupait toute la Lorraine, les Vosges, le Jura et le nord du Massif central. Et un autre noyau sur toute la chaîne des Pyrénées. Et aujourd'hui, du coup, grâce à la déprise agricole, grâce à la forêt qui regagne du terrain en France et grâce aussi à la protection de l'espèce, ben le chat regagne peu à peu du territoire en fait sur l'échelle nationale. Et donc, on va dire qu'il occupe grosso modo un territoire partant de la Lorraine, tout le quart nord-est de la France, qui descend jusque sur le Massif central, jusqu'au sud du Massif central, donc jusque dans le département du Tarn, et ensuite on le retrouve sur toute la chaîne des Pyrénées.
Alors ce qui vous enthousiasme, c'est qu'il ne va pas s'arrêter là.
On pense que là, normalement, d'ici peu, peut-être c'est déjà fait, la population du quart nord-est et celle des Pyrénées sont déjà en connexion. Et il y a apparemment, donc du coup, potentiellement un noyau de population qui s'éteint jusqu'en Espagne et qui rejoint via le Massif central les populations allemandes, luxembourgeoises et belges.
Alors ce qui est inquiétant, en revanche, c'est qu'il peut se reproduire avec nos chats domestiques, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on appelle l'hybridation. Donc le chat forestier et le chat domestique, qui sont assez proches, peuvent se reproduire ensemble et donc donner naissance à des hybrides qui seront à leur tour en fait fertiles et qui pourront à leur tour se reproduire. Et donc ça va causer un souci dans la conservation de l'espèce. Et donc peu à peu, on va perdre le vrai caractère du chat forestier et on va avoir affaire à une population d'hybride et plus à une population de chat forestier de souche pure.
Alors avant de revenir justement sur ces croisements et ce qu'on va pouvoir faire pour agir contre ça, comment procédez-vous pour être sûr que le félin dont vous avez détecté la présence est bien un chat forestier et de surcroît une souche pure et non une espèce hybride?
Alors on met en place un protocole sur une superficie de 10 km² dans lequel on vient placer entre 6 et 15 pièges photographiques. Donc c'est des caméras automatiques qui se déclenchent dès qu'il y a un mouvement devant. Et face à ces caméras, on vient placer une brosse à poils, donc une brosse en fer, sur laquelle on vient mettre de la racine de valériane. C'est une plante qui est très attractive pour le chat forestier. Et donc le chat, attiré par l'odeur, s'approche, est photographié par le piège photo, et ensuite se frotte à notre brosse à poils. Donc grâce à ça, toutes les semaines, on passe sur nos dispositifs, on relève les photos. En visionnant les photos, on peut dire cet individu a tous les critères phénotypiques du chat forestier, donc c'est probablement un individu chat forestier. Et grâce aux poils qu'on récolte ensuite sur la brosse et qu'on envoie au laboratoire de l'Université de Liège, on effectue des analyses génétiques qui nous permettent de confirmer à 100% qu'on a affaire à un chat forestier et non à un chat hybride ou à un chat domestique qui pourrait avoir potentiellement l'apparence d'un chat forestier.
Et vous avez croisé quand même beaucoup de chats forestiers avec vos analyses sur ces dernières années. Ou quels sont les résultats que vous avez obtenus?
Alors sur le massif de la Montagne Noire, qui est un massif forestier assez anthropisé, on a mené 6 mois d'investigation. Pendant ces 6 mois, on a récolté 70 échantillons de poils. On a réalisé plus de 400 clichés. Et les résultats sont tombés du coup en fin d'année dernière, en novembre 2021. Et on s'est aperçu qu'on avait bien du chat forestier de souche pure sur le massif, mais une part assez petite qui représentait 30% de la population. Sur les 70 échantillons analysés, on a eu 30% de chat forestier pur contre 70% d'hybrides. Donc là, c'est quand même un gros souci parce qu'on a affaire en fait à une population qui est déjà pas mal hybridée. Si rien n'est fait prochainement, le chat forestier dans la montagne noire risque peu à peu de disparaître et d'être noyé en fait dans l'hybridation des chats domestiques.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ?
Ben, Nature en Occitanie, là, durant le printemps et l'été, va lancer pas mal de campagnes de sensibilisation auprès des citoyens et présenter l'espèce, parce que cette espèce est très peu connue par le grand public. Souvent, quand on parle de chat forestier, les gens pensent que c'est un chat domestique qui vit en forêt, qui est redevenu sauvage, alors qu'on a bien affaire à une espèce différente. Et donc, on va dire, pour préserver cette espèce qui occupe aujourd'hui nos forêts et qui est assez discrète, il est important de stériliser vos chats domestiques pour éviter qu'ils viennent s'hybrider avec le chat forestier, d'éviter aussi de les laisser divaguer. Et donc, quand on se trouve en périphérie d'un territoire de chats forestiers, et bien là, il peut y avoir hybridation. L'objectif de ces actions de sensibilisation, ça va être dans un premier temps de faire connaître l'espèce au grand public et ensuite de leur apporter un petit peu les méthodes et les moyens à mettre en place pour éviter cette hybridation avec leur chat domestique.
Eh bien, le message est passé. On espère ce matin qu'on a fait connaître un peu plus ce chat forestier. Merci beaucoup, Maxime Belot, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes chargé d'études mammifères chez Nature en Occitanie. L'association est basée à Toulouse, mais vous avez plusieurs antennes et notamment vous êtes dans le Tarn. Merci.
Merci à vous. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h10 sur Europe 1, le retour de l'actu, le journal permanent, Alban Le Prince.
Il a fait jusqu'à -6 cette nuit en France. Un épisode de gel qui menace les récoltes des agriculteurs qui craignent de tout perdre. Le gouvernement doit mobiliser en ce début de semaine le dispositif des calamités agricoles. Autre conséquence du froid, la surconsommation d'électricité alors que la moitié de nos réacteurs sont en maintenance. Conséquence, les Français sont appelés à réduire leur consommation ce matin entre 7h et 10h. RTE précise tout de même qu'il n'y aura pas de coupure. En Ukraine, la sidération après la découverte du massacre perpétré dans les rues de Boutcha dans la région de Kiev. Des centaines de cadavres étendus dans les rues. L'Occident accuse la Russie de crimes de guerre. Moscou réclame une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui.
L'actualité culturelle à présent.
Et le lundi, on parle série avec Marie Jiquel. Bonjour Marie.
Bonjour Mine, bonjour Julien.
Bonjour Marie. Vous aviez aimé suivre les séances de ce psy attachant en thérapie. Reviens sur Arte. La première saison avait pour toile de fond les attentats de 2015. Eh bien la saison 2 est bousculée par la pandémie.
Et sur le divan, 4 nouveaux patients qui sortent d'un confinement un brin angoissé. Ça va raviver des souvenirs.
Pourquoi vous portez pas de masque ?
Parce que c'est pas obligatoire pendant la séance.
Et vous êtes sûr qu'il y a 1 mètre de distance entre nous ?
Me dites pas que vous êtes le genre de psy qui hoche la tête en faisant des...
Je gère une société de 4000 employés. Bien, je ne veux pas y aller par 4 chemins. Je suis dans la merde.
Voilà, impossible de ne pas évoquer cette nouvelle ère du Covid, selon Eric Toledano, l'un des producteurs.
On a été prendre, si vous voulez, le pouls chez des vrais psys pour nous dire, voilà, à la fois comment avait été perçue la série, c'était intéressant pour nous de le savoir, et ensuite, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans vos cabinets. Et là, il est vrai que la crise sanitaire qu'on a traversée, il n'y a pas un patient qui n'en parle pas.
Il y a donc des nouveaux personnages comme Jacques Weber ou Suzanne Lindon, un casting un peu inégal dans le jeu. Mention spéciale à l'actrice Aye Haïdara. Et donc de nouvelles problématiques, mais je ne divulgâche rien. Notre touchant psy lui reste, Philippe Dayan interprété par Frédéric Pierrot. Il a déménagé et changé de cabinet. Alors souvenez-vous, la saison dernière n'avait pas été très tendre avec lui entre ses passions et sa vie privée. Eh bien là, c'est pire. Écoutez Eric Toledano et Olivier Nakache.
Les gens ils nous demandent souvent, alors il y a les mêmes acteurs ? On dit non, sauf le psy. On a été encore plus loin dans sa trajectoire personnelle. Dans la saison 1, il traversait des zones de turbulence. Là, ce sont vraiment des grosses zones de turbulence, encore plus dans sa vie privée et aussi dans son rapport avec sa pratique.
Mais vous l'aimez, Frédéric Pierrot.
On l'adore.
Je finis par m'observer devant mes patients, à m'écouter. J'en ai marre, moi, de tout ça. Vous comprenez ?
Voilà, petite forme pour notre psy, mais il va pouvoir compter sur le soutien de sa thérapeute, jouée par Charlotte Gainsbourg.
Olivier Nakache et Eric Toledano, Marie, qui dirige l'adaptation de cette série. qui est à la base une série israélienne, ont décidé de confier la réalisation de certains épisodes à des réalisateurs différents pour apporter quoi, un nouveau regard.
Oui, car la réalisation d'un face-à-face sur le divan d'apparence simpliste a besoin d'être supportée par une mise en scène musclée. Nakache et Toledano en avaient rêvé, ils ont tous accepté. Agnès Jaoui, Arnaud Desplechin, Emmanuel Berco, Olivier Nakache en est ravi.
C'est toujours difficile de faire une suite. Et nous, par exemple, au cinéma, on aurait pu se poser la question d'un deuxième opus sur Nos jours heureux à l'époque, sur Intouchables ou sur d'autres films, même Le sens de la fête. Mais c'est quelque chose qui ne nous a jamais tenté. Par contre, là, il y avait une possibilité d'avoir une autre proposition, justement à travers des prismes de réalisateurs.
Olivier Nakache, à votre micro, Marie, merci beaucoup en thérapie. 35 épisodes, hein, de quoi passer ces deux semaines pluvieuses et froides, tranquillement sur, alors non pas sur le divan, mais sur notre canapé, à voir sur Arte TV dès maintenant et sur la chaîne Arte, première diffusion ce jeudi à 20h55.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bientôt 5h57 sur Europe 1, dans un instant la météo, le journal et une enquête, Julien.
Une enquête très fouillée, l'abécédaire du financement du terrorisme aux éditions du Cherche Midi, livre signé de la sénatrice de l'Orne Nathalie Goulet, trafic de drogue et d'armes, vente de contrefaçons, cartes de paiement prépayées, mais aussi cagnotte en ligne et crédit à la consommation. Voilà comment les terroristes trouvent de l'argent, ils détournent même nos impôts à travers la défiscalisation de dons à de prétendues associations caritatives. Voilà quelques-unes des révélations de cette enquête inédite. Sommes-nous suffisamment armés pour traquer ces terroristes toujours plus créatifs? Le combat contre le blanchiment d'argent et celui contre le terrorisme ne font-ils plus qu'un? On posera toutes ces questions à Nathalie Goulet dans une petite dizaine de minutes maintenant. Et puis juste après, Omblin, votre partition.
Un album avec l'une des pochettes les plus iconiques de l'histoire du rock. Money. On voit sur cette pochette un simple triangle infiltrant la lumière sur un fond noir, la partition de Dark Side of the Moon et la pochette de Dark Side of the Moon des Pink Floyd dans 20 minutes.
Anissa Dadi pour la météo. Anissa, journée nuageuse sur le nord, la moitié nord.
Oui, en particulier sur les côtes de la Manche. C'est vrai que là, le ciel est très chargé dès ce matin et ça va durer toute la journée avec le long du littoral entre la Bretagne et le nord, des averses et des rafales de vent. C'est le vent d'ouest qui souffle à 70 km/h à l'avant de cette perturbation. Donc entre la Bretagne et la frontière belge, en passant par la région parisienne, le ciel va se couvrir de plus en plus ce matin. On aura droit quand même à quelques belles éclaircies, mais ça va se couvrir. Les nuages deviennent de plus en plus épais, avec même des petites gouttes du côté des Hauts-de-France cet après-midi. Alors sur la moitié sud, là c'est mieux, mais attention, ce matin on a quand même des brouillards dans le Tarn, au sud de l'Auvergne, sur le Val-de-Saône, des brouillards et des chaussées glissantes. Donc soyez très prudents parce qu'on a beaucoup de valeurs négatives ce matin, de l'humidité de ce week-end, parfois même de la neige encore de ce week-end, donc ça peut être dangereux par endroit. Et puis ensuite, après la dissipation de ces quelques brouillards sur la moitié sud, c'est le soleil qui domine et il va faire vraiment très beau sur les deux tiers sud. Il fait froid ce matin, encore plus froid qu'hier matin. Moins 8 à Guéret, moins 6 à Sedan, moins 5 pour Rodez, moins 4 à Metz et Périgueux. On a moins 3 à Vannes, moins 1 à Toulouse, un petit degré pour Paris et 6 à Nice. Cet après-midi, il fait bien plus doux, 9 à Besançon, 10 pour Évreux, 11 à Paris, 14 à Saint-Tropez et 16 à Istres. La perturbation qui est sur les côtes de la Manche, elle nous fait pas juste coucou, elle va rentrer dans le pays.
Oh.
La semaine risque d'être humide. Hein.
Bon, bah à bientôt, Anissa Dadi.
Salut.
Salut. Vous écoutez Europe 1, très bon début de journée à tous. Nous sommes le lundi 4 avril. Et il est 6h. Les porte-monnaies se resserrent, l'inflation sur l'alimentation va grimper dans les prochains mois à cause de la guerre. En Ukraine, le risque de pénurie, c'est le surstockage et c'est justement ce qui se produit dans certains supermarchés. Reportage dans un instant. N'allumez pas votre lave-vaisselle ou votre sèche-linge ce matin. Le gestionnaire du réseau d'électricité appelle à limiter la consommation. Et puis l'Ukraine, avec les images de la barbarie de Boutcha, ville où les cadavres de civils jonchent les rues. En Russie, l'information est muselée par le Kremlin. À la fin de ce journal, nous irons en Gironde, où s'est installée une radio pirate.
Europe Matin, Omblin Roche. Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Romain Oquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. Des pâtes, de l'huile, des œufs, du poulet, cela ressemble sûrement à votre liste de courses habituelles. Ce sont aussi les produits qui vont vous coûter plus cher.
2,8% d'inflation en mars et jusqu'à 8% en fin juin, selon le patron de Lidl. Une hausse des prix aggravée par la guerre en Ukraine.
Pas de risque de pénurie, sauf en cas de surstockage, prévient Michel-Édouard Leclerc. C'est justement ce qu'on observe dans certains supermarchés où les clients, à cause des prix du carburant, limitent leur visite, mais pas le contenu de leur chariot. Démonstration au Pèlerin, près de Nantes, avec notre correspondant Charles Guyard.
Passage en caisse, chariot poussé jusqu'à la voiture et course rangée dans le coffre. Ce rituel, Pascal en a sérieusement réduit la fréquence.
Je fais une liste de courses, j'essaye de préparer mes menus à l'avance et puis je viens une fois par semaine seulement. Avant, je venais tous les deux jours ou des fois tous les jours.
En cause, la flambée du prix du carburant qui limite les déplacements, non sans regret pour cette sexagénaire.
Parce que ça me faisait sortir, je faisais mon petit tour dans le magasin, j'aimais bien. Je suis à 5-6 minutes en voiture, mais bon, l'essence ça consomme, donc on fait attention.
Du coup, lorsqu'elle ressort du supermarché, l'addition n'est plus tout à fait la même qu'avant.
Ça fait 150-160 euros, aussi que ce soit réparti en 3-4 fois.
Avec des clients désormais aussi préoccupés par leur jauge à essence que leur ticket de caisse, Sébastien Courtois a dû s'adapter. Pour ne pas voir son Intermarché se vider, le directeur a lancé des offres spéciales et ça marche.
Dès ce week-end, on a initié un bon d'achat de 5 euros sur les drives qui étaient supérieurs à 70 euros. Et on a eu un doublement de nos commandes drive dès vendredi. Ça permet de voir que ces actions améliorent le pouvoir d'achat de nos clients.
Et dès ce lundi, ce supermarché va également proposer, moyennant 9 euros, un service de livraison à domicile.
C'est toujours ça de gagner.
Le Pèlerin, Charles Guyard, Europe 1.
Une inflation portée par la crise de l'énergie et ça tombe mal à cause de la vague de froid qui traverse en ce moment le pays. Ce matin, RTE, le gestionnaire du réseau, appelle à limiter la consommation entre 7h et 10h.
6h passées de 2 minutes sur Europe 1. À 7h-ci, dans une semaine, on connaîtra le nom des deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle.
Encore 5 jours donc pour convaincre. Emmanuel Macron a lancé son sprint final lors d'un meeting à Paris samedi. 2 heures de discours et des appels du pied aux électeurs de gauche sur qui il compte pour le second tour. Ça, c'était sans compter la contre-attaque des autres candidats ce week-end, Alexis de la Fontaine.
Oui, à commencer par Jean-Luc Mélenchon qui a taclé le président avec ironie.
Ce fut en effet un festival feu d'artifice de bobards. Comment a-t-il pu croire qu'on ne s'en rendrait pas compte ?
Le leader insoumis a ensuite ciblé le bilan du chef de l'État. La vie des plus pauvres s'est effondrée, tandis que celle des plus riches s'est améliorée. Hors de question de laisser le social et le pouvoir d'achat à Macron, conclut énervé un élu insoumis. Mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas seul à lutter contre l'offensive du président en direction de la gauche social-démocrate. Anne Hidalgo, elle, en appelle à la lucidité.
Vous devez le savoir, mais vous le savez, Emmanuel Macron ne vous calcule même pas. Parce que Macron est de droite. C'est une réalité évidente.
Dans une gauche décomposée, il reste donc un seul front commun, ne laisser aucune voix au président.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.
La campagne d'Emmanuel Macron à nouveau rattrapée par la guerre en Ukraine. Le président a dénoncé des images insoutenables, celles des cadavres de civils qui jonchent les rues de Boutcha en Ukraine. Plusieurs centaines ont aussi été enterrés dans des fosses communes selon le maire de la commune.
Une des atrocités de l'armée russe constitutive de crimes de guerre selon le Quai d'Orsay. Moscou dément et accuse une mise en scène de Kiev à l'adresse des médias occidentaux.
Et depuis le début de l'invasion, justement, la guerre bat son plat sur un autre terrain, celui de l'information.
Oui, écoute, russe, le blackout vis-à-vis des médias occidentaux et le retrait des grands réseaux sociaux empêchent la remontée d'informations fiables. Impossible pour les journalistes sur place de parler par exemple de guerre ou d'invasion au risque d'être condamné à 15 ans de prison.
Alors pour permettre à la population de s'informer sans prendre de risques, une radio internationale s'est installée chez nous en Gironde.
Voilà la radio pour la paix internationale dont vous entendez le Flash Info, réalisé grâce à des journalistes russes exilés. Une production mise en forme dans ce studio d'Oros au sud de Bordeaux. Notre correspondant Stéphane Place a rencontré son producteur.
Vous écoutez la radio pour la paix internationale.
Всем привет, я Майкл Неки. Это новая сводка с Русланом Левиевым.
Là, c'est nos journalistes. Bien sûr, c'est des exilés, ils ont quitté la Russie. Là, ils parlent essentiellement de la propagande russe. Ils démontent des mensonges et là, en particulier, ils parlent également de ce qui se passe à Mariupol.
Une petite table de mixage, un bon micro, un casque, un ordinateur. C'est ici, dans ce village du sud de la Gironde, que Sylvain Clament ajoute les jingles et monte ses flashs d'informations diffusés en ondes courtes par RFPI avec des bulletins en russe pour
contrer la propagande et la censure imposée par Poutine.
On reçoit des émissions de journalistes russes en exil, on les monte et après on les envoie aux États-Unis, en Floride, qui eux émettent jusqu'en Russie et Ukraine. Nous on n'est pas là pour faire de la contre-propagande, c'est des flash infos de 15 minutes, 3 par semaine. Il n'y a pas que des journalistes russes, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des journalistes ukrainiens, tchétchènes et lettons. Il y en a en France, à Londres, et les autres, je ne dirais pas où ils sont, parce qu'ils sont cachés.
Des journalistes qui parlent de guerre, pas d'opérations spéciales comme le Kremlin. Et avec la diffusion en ondes courtes en Ukraine et en Russie, les auditeurs restent préservés, anonymes, alors qu'une connexion à Internet les exposerait à un risque de traçage.
Le reportage du correspondant d'Europe 1 en Gironde, Stéphane Place.
Une bataille de la communication pour l'instant remportée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui poursuit par ailleurs sa tournée internationale avec une intervention cette nuit durant la cérémonie des Grammy Awards à Las Vegas.
Nos musiciens portent des gilets pare-balles au lieu de smoking, mais la musique se fera entendre malgré tout, a déclaré le président ukrainien dans une vidéo enregistrée. Côté palmarès, c'est le chanteur Bruno Mars qui a remporté le prix de la chanson de l'année. Un réveil en douceur grâce à Leave the Door Open de Bruno Mars et Anderson .Paak.
C'est le super groupe Silk Sonic, si exactement. Je ne me trompe pas. Je parle sous le contrôle d'Omblin. Merci beaucoup Romain Oquet pour ce journal.
6h06, on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange et on commence avec la victoire du PSG hier.
Oui, malgré les sifflets au Parc des Princes, les Parisiens ont écrasé Lorient 5-1, notamment grâce à une nouvelle performance majuscule de Kylian Mbappé, auteur de 2 buts et 3 passes décisives. Rien que ça, l'attaquant qui souligne les bienfaits de la pause internationale après des semaines de doute dans le vestiaire parisien.
Je pense que de changer d'air, d'avoir une autre atmosphère, je pense que ça a fait du bien à pas mal de joueurs. Et voilà, on est revenu avec beaucoup plus d'énergie et je pense que ça s'est vu ce soir. Et on a réussi à, je pense, donner du plaisir aux gens parce que nous, on en a pris en tout cas.
Paris plus que jamais leader du championnat devant Marseille. Des Marseillais qui ont été gagnés à Saint-Etienne, 4-2. Victoire également de Lyon contre Angers, 3-2, grâce notamment à la nouvelle recrue brésilienne Tété. Et puis en bas de classement, à Bordeaux est toujours bon dernier, derrière Metz et Saint-Etienne.
Direction les Flandres, Martin, avec du cyclisme.
Oui, c'est Mathieu Van Der Poel qui s'adjuge le deuxième monument de la saison, le Tour des Flandres. Le Néerlandais s'est imposé au terme d'un final à couper le souffle. Échappé avec Tadej Pogacar, ils ont été rejoints à 300 mètres de la ligne. Mais le petit-fils de Raymond Poulidor a réglé tout ça au sprint devant un autre néerlandais Dylan Van Baarle et le surprenant français Valentin Madouas qui pense déjà à l'année prochaine.
Il n'y a pas la victoire mais c'est quand même une journée magnifique. Je pense que je suis battu par des coureurs qui étaient tout simplement plus forts et ça joue à rien mais dans les prochaines années j'espère que je les devancerai sur la ligne.
Un mot de tennis, Martin.
Oui, retenez bien ce nom. Carlos Alcaraz, l'Espagnol, a remporté hier le Masters de Miami à 18 ans seulement, devenant le troisième plus jeune joueur à remporter un Masters Mills derrière Michael Chang et Rafael Nadal, rien que ça. En finale, il a terrassé le Norvégien Casper Ruud.
Merci, Martin. C'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant. Une enquête inédite sur le financement du terrorisme. À tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Il est 6h11, votre invité Julien ce matin est sénatrice de l'Orne, membre de l'Union Centriste au Sénat et vice-présidente de la Commission des lois.
Bonjour Nathalie Goulet.
Bonjour.
Merci madame d'être avec nous ce matin en studio pour nous présenter votre livre, l'abécédaire du financement du terrorisme, c'est aux éditions du Cherche Midi. Je vais le dire d'emblée à nos auditeurs, c'est à la fois passionnant et effrayant, on y apprend que la créativité des terroristes est sans limite quand il s'agit de trouver de l'argent pour mener à bien leur mission mortifère. On va revenir, mais avant, je crois que vous voulez nous dire un mot au sujet des massacres à Boutcha.
Bah écoutez, je vois pas très bien comment un responsable politique ne peut pas dire son effarement, à la fois sa colère et sa tristesse devant la situation. Donc je vais exprimer évidemment toute ma solidarité avec les Ukrainiens. Peut-être qu'il faut sortir la Russie du Conseil de sécurité. Peut-être que les mots contre les mots et la diplomatie ont peut-être fait leur temps. Peut-être qu'il faut trouver une autre solution. En tous les cas, je ne voulais pas manquer cette opportunité pour dire toute ma solidarité avec l'Ukraine.
Pour en revenir à votre livre, Nathalie Goulet, pourquoi maintenant, à 6 jours du premier tour de la présidentielle, pourquoi aborder ce sujet du financement du terrorisme ?
Ça, c'est le calendrier du livre, mais je trouvais que ça faisait déjà longtemps qu'on n'en parlait plus. C'est vrai que nos services ont beaucoup travaillé et que la politique internationale en la matière a aussi beaucoup évolué, qu'on a fait beaucoup de progrès, mais que le sujet demeure d'actualité. Et d'ailleurs, je ne suis pas du tout sûre que les questions de terrorisme ne soient pas de nouveau d'actualité avec le délabrement de l'Ukraine.
Il est vrai que vous touchez avec cette enquête l'une des faiblesses historiques de notre lutte contre le terrorisme, qui est d'avoir une réponse tournée davantage vers la répression que vers la prévention. En clair, on a toujours un temps de retard, c'est ce que vous appelez, je cite, la guerre de l'obus et du blindage.
Mais oui, parce que si vous voulez, vous avez un attentat, une loi. Vous avez un attentat, on décortique l'attentat, on voit les mesures de financement par exemple, et donc on prend des mesures contre ces mesures de financement. Donc c'est la guerre de l'obus et du blindage. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le blindage est plus fort, l'obus est aussi plus fort et réciproquement. Donc si vous voulez, il y a toujours un temps d'avance, évidemment, des terroristes qui
sont... Et des lois parfois bâclées.
Et parfois un peu tardives, un peu poste. Ex post plutôt qu'ex tante, oui, c'est un peu le problème.
Prenons un exemple concret, les cartes de paiement prépayées, oui, que vous avez essayé de faire interdire, je crois, en 2014, oui, ces mêmes cartes que les terroristes du 13 novembre 2015, oui, ont utilisées pour financer, oui, leurs préparatifs, c'est bien ça?
C'est ça, c'est-à-dire que j'avais travaillé à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN sur le même sujet, et on pensait que les cartes prépayées pouvaient être on avait identifié les cartes prépayées. Si vous voulez, le système, pour bien comprendre, c'est que tout ce qui peut créer du cash rapide, intraçable, contrefaçon et autres trafics, c'est bon pour financer le terrorisme. Or, les cartes prépayées ont été évidemment un moyen, on l'avait identifié. En 2014, il n'a pas été possible de le faire voter, ça a été voté en 2015. Ça n'aurait pas empêché les criminels du Bataclan de se financer, mais on aurait été un peu en avance sur l'événement.
Alors, il y a les cartes de paiement prépayées, mais aussi, vous l'avez mentionné, la revente de contrefaçon, oui, les crédits à la consommation, oui, le trafic d'armes et de drogue,
bien
les
sûr,
cagnottes en ligne, ça,
ah oui,
on le connaît un peu moins,
oui,
les crypto-monnaies,
oui,
mais aussi, écrivez-vous, nos impôts. On,
oui,
peut financer le terrorisme sans le savoir ni le vouloir.
Ben, absolument, parce que vous avez un certain nombre d'associations qui collectent des fonds qui font l'objet de déductions fiscales. Or, s'il y a une déduction fiscale pour une association, ben, c'est tous les contribuables qui contribuent au financement. Et donc, il y a quelques exemples dans mon livre, dont le financement d'une école d'Oulema, donc une école coranique en Mauritanie, qui a fait l'objet d'une collecte de fonds massive en France, déductible d'impôts. Moi, j'ai pas envie de financer une école d'Oulema en Mauritanie. Surtout que cette école, en plus, a été fermée pour ses liens avec les frères musulmans. Donc, si vous voulez, il y a des moments où il faut quand même réagir. Mais le contrôle du financement des associations, c'est un très gros problème.
Alors, l'État est donc généreux et pas toujours très regardant avec les associations. Il l'a également été pendant la crise Covid. Là aussi, vous nous, oui, dites que des groupes terroristes en ont profité.
Oui, il y a un rapport du GAFI, qui est l'unité centrale qui s'occupe de ce sujet, et aussi d'Interpol, d'ailleurs, qui ont constaté qu'un certain nombre d'aides Covid, mais pas seulement pour la France, hein, parce qu'il y a eu des aides Covid partout, ont été détournées. Si vous voulez, le problème, c'est que les terroristes utilisent tous les dispositifs. Donc, c'est des dispositifs qui sont faits pour tout le monde. Les cartes prépayées, c'est fait pour tout le monde. Les cartes téléphoniques, c'est fait pour tout le monde. Les cagnottes en ligne, c'est très pratique.
En fait, c'est les mêmes méthodes que la criminalité organisée.
Mais c'est de la criminalité organisée. Et donc, ils utilisent toutes les données du système pour pouvoir les détourner au profit d'actes terroristes. C'est en cela que c'est effrayant.
Et le halal dans tout ça, Nathalie,
ah oui,
Goulet, est-ce qu'il existe des cas avérés de financement du terrorisme via cette industrie qui, vous l'écrivez dans votre livre, pèse, ça m'a étonné, 7 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires au niveau mondial?
Oui. Alors là, c'est beaucoup plus délicat. Il n'y a pas de preuves avérées, évidemment, mais simplement, ça crée des circuits. Comme le tourisme halal, par exemple, qui se développe et qui a fait l'année dernière 220 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Alors, personne n'empêche les communautés de passer leurs vacances ensemble. C'est pas du tout un sujet. En revanche, ça peut créer du séparatisme. Et en tous les cas, sur le tourisme, il y a des preuves avérées, tout est justifié dans le livre, de détournement de fonds au profit d'organisations qui ont d'autres velléités que le tourisme.
Alors, on s'imagine souvent que la lutte contre les terroristes est principalement l'affaire de nos services de renseignement, d'agents infiltrés, de micro-cachés. Alors j'imagine que tout ça existe bien sûr, mais à la lecture de votre enquête, on comprend que cette lutte commence avant tout au ministère de l'économie et des finances, là où sont traquées les fraudes et le blanchiment d'argent.
Oui, parce que en réalité, les terroristes utilisent, et vous l'avez dit tout à l'heure tout à fait de façon opportune et bien vue, les mêmes circuits que la délinquance financière. Et en réalité, on se rend compte, en ayant travaillé sur le sujet depuis un moment, qu'on a plus progresser dans la lutte contre la fraude fiscale en luttant contre le financement du terrorisme qu'en voulant vraiment lutter contre la fraude fiscale. C'est-à-dire que, bon, il y a notamment un chapitre sur le blanchiment d'argent, il y a aussi un chapitre sur la corruption, il y a évidemment un chapitre sur les paradis fiscaux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui crée de l'intraçabilité est bon pour financer le terrorisme, comme il est bon pour financer la criminalité organisée.
Le problème, c'est que, vous le dites, vous l'écrivez noir sur blanc, c'est que commettre un attentat coûte de moins en moins cher.
Ouais, c'est low cost. C'est low cost et donc c'est de plus en plus compliqué. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas contrôler ces financements parce que ça induit aussi une utilisation de nos circuits bancaires et ça, évidemment, les pervertit.
Merci beaucoup Nathalie Goulet.
Je vous en prie,
de
merci
nous avoir
votre
présenté
invitation.
Ce matin votre livre L'abécédaire du financement du terrorisme aux éditions du Cherche Midi. Ça paraît copieux comme ça, mais ça se lit très bien. Merci à vous.
C'est un dictionnaire, c'est facile. Ouais. En plus, il y a des images.
Et des QR codes même.
A tout de suite sur Europe 1 avec la partition de Pink Floyd.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
6h19 sur Europe 1, les principaux titres, Alban Le Prince.
La Russie demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui en réponse à ce que Moscou appelle des provocations haineuses des radicaux ukrainiens à Boutcha. Dans la ville située dans la région de Kiev, l'armée de Vladimir Poutine est accusée d'avoir tué des centaines de civils. L'Occident évoque des crimes de guerre. Il n'y a plus de vigilance, mais la vague de froid a une nouvelle fois frappé la France, cette nuit faisant craindre aux agriculteurs de grosses pertes. Conséquence, le gouvernement prévoit de mobiliser en ce début de semaine le dispositif des calamités agricoles. C'est aussi en raison du froid que les Français sont appelés à réduire leur consommation d'électricité ce matin entre 7h et 10h. Il faut par exemple éviter d'utiliser les appareils électroménagers pour éviter de surconsommer. RTE indique tout de même qu'il n'y aura pas de coupure.
Votre partition Omblin ce matin nous ramène en 1973 en Angleterre, quand Pink Floyd sort l'un des albums les plus importants de l'histoire du rock, Dark Side of the Moon.
Oui, un chef-d'œuvre, Julien, qui fait entrer les Britanniques dans une autre dimension. Au-delà du succès commercial sans précédent pour le groupe et la collection de récompenses, avec Dark Side of the Moon, Pink Floyd transcende le rock progressif expérimental. Le Quatuor offre un voyage sonore complexe entre des synthés planants et des poussées de guitare rock traversées par des sons bidouillés totalement improbables. Pas étonnant que Dark Side of the Moon soit devenu le disque préféré des démonstrateurs de matériel hi-fi.
Cette réussite artistique totale passe également par la richesse des textes.
Dark Side of the Moon est le premier album de Pink Floyd avec le bassiste Roger Waters comme unique parolier. Il s'essaye à l'exercice de l'album concept, explore le côté sombre de la nature humaine, ses dysfonctionnements, ses craintes, sa cupidité. Le disque est composé de deux parties distinctes, à la fois autosuffisantes et complémentaires, avec sur la face A les thèmes du cheminement et du temps qui passe. Sur la face B, Roger Waters dresse le portrait de l'homme matérialiste aux limites de la folie.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cet album n'a pas été créé de toutes pièces en studio.
Effectivement, les fans du groupe ont pu le découvrir en concert avant même son enregistrement. Quoi de plus motivant pour se mettre au travail qu'une tournée qui s'annonce. L'ébauche des premiers morceaux commence dès la fin de l'année 1971. Pink Floyd se prépare à faire le tour de l'Angleterre et souhaite donc présenter à son public un répertoire tout neuf.
Les musiciens se retrouvent quotidiennement lors de longues séances de répétition.
Ils perfectionnent les démos concoctées par Roger Waters. Les chansons dévoilées sur scène sont très proches des versions définitives. Elles vont d'ailleurs se succéder dans le même ordre sur l'album.
Trouver les scènes anglaises, américaines et japonaises, Pink Floyd s'installe dans les studios Abbey Road à Londres.
Oui, les titres qui ont existé pendant de longues semaines en live sont captés par l'ingénieur du son Alan Parsons. Les 10 chansons sont enregistrées sur la même bande de 16 pistes afin que chacune se glisse dans une autre. Les chœurs, les carillons, les tiroirs-caisses, les battements, les solos de guitare de David Gilmour font entrer Dark Side of the Moon dans la légende et envoient Pink Floyd en orbite autour des charts mondiaux.
Starting gun.
Le morceau de la face A, Time, extrait du chef-d'œuvre psychédélique des Pink Floyd, Dark Side of the Moon.
Quel chef-d'œuvre. Merci beaucoup, Ombline. Vous restez avec nous. La matinale se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.